Là, je suis avec la voix de Marge Simpson, c'est une catastrophe. Mesdames et messieurs, c'est Marge Simpson qui vous parle, auditeur de Radio FMR Service Mondial. Merci de nous écouter sur le Fleur de Vorbis. Notre programme va être relayé à 89,1 mégacycles en modulation de fréquence sur la région de Toulouse à midi pile, temps commun européen. Le temps pour Radio d'arrêter son espèce de parodie d'émission de BD absolument bidon et minable. Les sorties de l'appareil sont marquées sur votre écran en haut à droite. Comment ça, je suis aigri? Hein? Non, mais c'est ça, je suis aigri.
Ouais.
Ouais, non, mais franchement, attends, t'as entendu? C'est une catastrophe, ça chie ce qui passe. Enfin bon, voilà quoi. Dans l'attente de nos émissions royales, dans l'attente de nos émissions normales, l'hymne officiel nous est interprété par Fred Rabold ou Dis Bavard War Orchestra. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul.
Bah, il est où, Fred Rabold? Il est aigri lui aussi?
Oh, non. Sur mon blog que je vais les défoncer mais grave. Mais c'est nul, pitoyable. Ouais, c'est ça. Mais Will Eisner, déjà, il faut pas lire bêtement ce que l'on lit dans les journaux, hein. Il y a un peu de synthèse. C'était enfin Radio qu'on arrête, c'est-à-dire qu'on repart vers des chroniques bandes dessinées de qualité, bien faites et surtout préparées
ça, on
avec
sait
amour
pas,
et tout ça. Ça reste à voir, hein, comme on dit. Non mais Radio, arrêtez de suite ce genre de petit jeu débile qu'il s'agit de faire exactement le clone de l'émission avant celle de FMR, c'est débile. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Tu peux me faire le babillard pour une fois?
Ah non.
Ouais, bah si. Bah, bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 18 février 2006. Il fait beau. Vous écoutez la radio. Enfin, je veux dire une vraie radio, quoi. Comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, DVD, TV. Avec ensuite le cahier du sport sur les Jeux Olympiques. Puis à partir de 15h, du mix avec du reggae, Zarma Farai. 17h, vie d'ordure, c'est du punk. 18h, tu peux l'ouvrir. Il s'agit d'une émission participative. Le numéro de la station, c'est le 05 61 580 580. À 19h, Dada, ça doit être une émission surréaliste. À 20h, la Stéthéro Expérience, ça doit être encore mieux puisque c'est Jésus qui la réalise. Excuse-moi Fabrice. 21h30, Liquid Sky. Et 23h, SKS et PIO pour Breakbeat Experience. Et jusqu'à 5h du matin, c'est des émissions exclusivement en direct sur Radio FMR. Nous, on sait les faire, quoi, je veux dire. C'est pas comme d'autres qui sont littéralement aigris, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est absolument ridicule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça? Ouais. J'ai bien fait mon jingle.
Ouais.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Enfin, entre avant midi, non, ça m'étonnerait. Oui, je sais, c'est débile. On lance supplément week-end, peut-être, hein.
Allez, c'est lancé.
Allez, c'est parti.
Ladies and gentlemen, bear witness to the generals. General number one.
I'm a big gun, R.I.P.
pink big pun. Get your shit from back to next week. Stash you in your pimp cup. Only ashes full. Trap rabbit smash you down the log sides. Fuck your girl with my Christmas yule. General number one. Give a head of all machetes I cover for fun. Ready girl, I punch your lungs. 8:30 morning crooked. You ain't worthy. Fuck Kelly, keep my video camera sturdy. Dark bitches from the Cape Verde on it. Clapping on rape girlies contracts. They sound their name on them. Filet them well. Slay so well. They be beefing every weekend. I don't answer myself. Cause they creeping, nigga freaking. Yo, they man don't know. Be like trap kick his ass. I be like hello no. I don't fight for no bitch, nigga. Fight for self. Mighty Thor fist will split your heart from your shelf. Ah, General Bomb, you're off your marker. Those ain't trucks, those are made by Tonka. My ride could park on yours. I'll stomp you right to the parking lot floor. Cause you're some
bitches, I ain't scared. Your name's just stand for. I can flip on slang, the word phrase sampler. Only when I say I'm the Boston Strangler, I can turn into the perfect picture of anger. Mean down broad, I be that girl that smokes trees out of bones and ditch feed with her mom. And just leave me alone or get keep heat on Jeep's Marina. The anti-goose make her face beat her white chick. Three shades paler than most of my people. Write my own shit, you can't say that either, bitch. I'm not feminine. You'll find an emblem over your tombstone of my face if you mention him. And how the gotta pop my car. Not far from where I learned that I could shit on these bars. And cantankerous words could dribble out of my lips. You won't accept me, but I bet you take this unused clip, bitch.
Alright, alright, trap level, teach me when I'm BK, Beam Town. Know how to get down. General round number three, let's go.
Ball ringing, nigga. Best to pick it up, I got a trillion tricks, I'm finna get them drunk. Yo, what you got in your stables, I bet they don't call. Like you're crawling to daddy mills, I'm off the wall. Fuck a rim punk, and who you fucking with? I get a crumb and then you drunk, up or suck a fifth. I shoot a rib off you, I'm no drug dealer. I'm a pimp and you can tell by how a dumb beat a general.
Hey, that's trying to get me, hand me up, so I can't get sleep. I've been a case in the hand of the law since my grace fell from the hand of the law. I'm sorry, mama. I know I sin right. She ain't complaining. The tiger spin light. Tiger plans. The shine's tremendous. She ain't never gonna say, AK, please end this. It's endless.
Yeah,
Prince,
AK, Prince, Daddy Mills.
Prince,
see how we getting down? Cause it'll get right. Y'all still ain't done.
General,
let's go.
I'm only 12, but I can hold it down for myself. The general, private E1 MacGyver. I get a gun in my Happy Meal. Spank my dad back and carry super soakers in my backpack. Filled up with acid, I'm a bad kid. Slip razors in my teacher's apples. From the rotten apple, I'm an 8th grade nightmare. Like I care, right? Yeah, Gino, be right there.
You little dummies running scatter than Gregory Hines. Yeah, prepare to be leveled by enemy minds. I get blinded by your bullshit slanging. I'm in the pulpit saying prayer while I'm banging Duran's Duran. All of you can't hang with generals, can't bang with veterans. Even MacGyver is livin' in you. If I were you, but then what I do? I would probably duck and hide from people try to end my life, man, get through.
Supplément week-end, on a ouvert l'émission aujourd'hui avec le dernier Herbalizer en date. Il s'agit de Take London. Le nom du morceau, c'est General, c'est en featuring Trap Clappa, Church Marina, Daddy Mills, AK, MacGyver and Jane Grey, qui est l'une des grandes voix de l'électro de ce côté-là, il n'y a pas à dire. Et oui, je sais, j'ai la voix de marge et tu disais tout à l'heure en antenne.
Oui, on disait en antenne que c'était cette musique qu'ils utilisaient pour le résumé du week-end rugby dans Stade 2.
Ouais, du sport au micro vert, non, a peut-être son mot à dire. Tranquille, ouais, non, si, bon, tant pis. Okay.
Alors, où est le casque?
Voilà.
Le micro. Alors,
je tiens à signaler qu'hier, quand même, il y avait Groove Rider, le parrain de la jungle, à Toulouse, et je n'y suis pas allé pour être en forme. Et il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres. Hein, ils arrivent au dernier moment, sans se faire maquiller en plateau.
On va profiter de l'occasion pour saluer Christophe qui est parmi nous.
Oui, parce que nous, on est en direct
même.
Et en public.
Ouais.
Je veux dire, nous c'est pas préenregistré, et c'est pas fait avec les pieds, contrairement à Radio. Nous on fait que du live, voilà. Et je suis toujours énervé. Voilà, Zou. Vous m'excuserez, j'ai une grosse grippe en travers de la gorge, un sale microbe qui a la forme d'un vieux dino orange et qui pue, enfin voilà. On se défoule comme on peut, en tout cas en gueulant très fort dans un espace fermé en général. Et parmi les news de cette semaine, il y en a une qui est tombée ce matin très tôt, c'est que donc les Verts ont leur prix parallèle au festival d'Angoulême. Il s'agit du prix Tournesol. Le 10e prix Tournesol est allé à l'album Amiante, chronique d'un crime social, qui était édité par un prozine, qui était pas trop mal, mais quand même très 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 noir. Normal, hein, sujet oblige. On a vu Yves Frémion d'ailleurs hein, à ce sujet.
Angoulême.
Ah, ouais, un peu plus, et je suis sûr qu'il allait nous vendre des cotisations pour le parti. Et à l'occasion du 10e anniversaire du prix, ils ont décidé de créer un prix Super Tournesol. Et figurez-vous que c'est Fémur qui l'a eu. Le Fémur, c'est le dessinateur du Génie des Alpages. Un vieux classique qui sortait dans Pilote, absolument énorme, où il est question de la montagne, du rapport du berger avec ses moutons et le chien et tout ça. Enfin bon, c'est à hurler de rire. Un truc absolument nonsense. Et,
ouais, c'est ça, hein, ça développe bien le nonsense. C'est une pratique en plus d'humour qui est plus typiquement britannique que française, et le décalage qui est vachement bien réussi par Fmur depuis le début hein, d'ailleurs hein, c'est d'opérer ce même genre d'humour nonsensique chez nous quoi, alors que bon bah a priori on devrait être moins accessible à ce genre de truc là, mais avec Fmur ça a marché depuis le début hein, c'est là quand même coup de chapeau
il hein. Y a un truc d'humour nonsense qui passe en ce moment sur Channel 4 depuis début février, ça s'appelle The IT Crowd.
Oh non, tu vas avoir pas du bassiné depuis ce matin avec ça.
Ah, ah bah non. C'est énorme. Quand tu vas le voir, tu vas le hurler de rire. C'est sur une chaîne anglaise, c'est sur la BBC, non, c'est sur Channel 4. Voilà. Bon, effet loupé. Ok, on y va avec la revue de presse. On commence avec, c'est plutôt de la revue d'art. Il s'agit de Robot, le premier tome donc de Super Color Comic japonais est arrivé en français, s'il vous plaît, dans la collection Camille. C'est édité par Tournon Carabas. C'est le même groupe que Semic Édition. Hein. Ce qu'il faut savoir, ce sont des mecs qui ne sont pas les nouveaux venus. Et là, ils ont donc édité une très très belle revue apériodique japonaise qui est assez épaisse, assez chère. Hein. En général, là, l'édition française, en plus, je crois qu'elle est dans le même prix que l'édition japonaise. La couverture déjà a un design qui est très sobre, étonnamment, on dirait un peu crash, je dirais par le côté extrêmement simplifié de cette œuvre collective, et à l'intérieur, je vais dire, comment dire, c'est riche, c'est
des styles graphiques d'excellente qualité.
Ouais. On se prend une claque assez impressionnante. Il y a de la science-fiction, il y a du rire, il y a un poil d'érotisme. On est littéralement séduit, c'est clair. Le troisième tome sera en route au Japon, le deuxième tome existe déjà. Là, le premier tome vient d'arriver en France, il vient d'arriver là en librairie, nous on l'a vu en Angoulême. Donc vous pouvez vous précipiter, ça s'appelle Robot, le mot tel quel, Robot. Donc le premier tome vient d'arriver, c'est édité par Camille Tournon Carabas. C'est une excellente revue d'art, il n'y a pas à dire, c'est des histoires courtes et de l'illustration.
C'est gros, hein. C'est un gros pavé et c'est le prix, c'est quoi? C'est combien?
Le prix, je crois pas qu'on puisse le dire à l'antenne, donc je le dirai pas. Non, je déconne. C'est que tout simplement, je sais pas, mais tu l'as de toute façon au dos. Oui.
Non, parce que c'est un.
Et tout en haut, t'as quoi? Un code barre.
Oui, c'est un code barre. Y a pas de prix dedans.
D'accord, ok. Donc à vous de voir.
Merci.
De toute façon.
Au revoir.
Au revoir. Enfin bon, en tout cas, moi, je suis littéralement sous le charme. Robot, premier numéro, Super Color Comic. C'est chez Camille Tournon Carabas. Et que dire, de la SF, du rire et un poil d'érotisme. Ah, ça, je me suis trompé. Voilà, nous on est en direct, hein. Y a pas de cut. Et Thomas dégaine son stylo, je vous laisse deviner pourquoi. On renverse l'ordre, encore de l'ASF, du rire et de l'érotisme, mais dans tout à fait d'autres proportions. Il s'agit de Soupir, là aussi une revue prosine éditée en collectif avec des histoires complètes. C'est édité par nos copains de chez Necomics. Donc je fais de grosses salutations à Milouz et à toute l'équipe. C'est en noir et blanc cette fois-ci, et Necomics, c'est des mecs qui ont un design qui est très particulier, qui est entre manga et bande dessinée indépendante. Ils faisaient même des t-shirts en édition avec un éditeur à une époque, là j'en ai un joli. Je sais pas s'il y a toutes les filles qui se collent à moi depuis.
Ah, pour toucher Papa le Lapin.
Pour ceux qui n'ont pas la couleur, on vous expliquera hors antenne. Sinon, donc, le collectif Necomics, qui sort d'habitude l'excellente revue Necomics, qui est assez poilante, et sur les thématiques, là, ils font une thématique qui est...
sur le cul.
Non, sur le corps féminin et les mystères. Tu me permets, j'ai pas eu le temps de mettre la pastille moins 12 en bas à droite, pardon. On va se faire allumer par notre ancien maire. Moi je tiens à garder une intégrité dans cette émission. Des invités en interview comme par exemple Kevin Hérault, département numéro 34. C'est 34, le dessinateur de HK qui d'ailleurs est en cours de réédition, de remasterisation comme on fait, puisqu'il refait complètement des planches chez Glénat, et donc il explique quel est l'objectif de la démarche, et que donc HK va continuer. Ça tombe bien, hein, parce que ça fait quand même un sacré mail qu'on attend la suite. Voire carrément au dessin, comme Boulet, le dessinateur de Ragnarok et Devomok, mais c'est une planche qui est issue de son propre blog, bouletblog.com, qui est assez amusant. Le Soupir, la revue collective de Necomics, vient de sortir. Je ne crois pas qu'elle soit interdite d'exposition, mais à mon avis, il faut demander auprès des libraires spécialisés en bande dessinée pour le trouver. En tout cas, il est très 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 beau, et quand même, pour leurs moyens, ils font une très 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 bonne revue. Il n'y a pas d'autre terme, non ?
Oui, si vous voulez du sexy, des filles super jolies en noir et blanc, vous pouvez vous le procurer.
Et il y a aussi des nouvelles et des petites interviews qui sont sympas quand même.
Exact.
Voilà. Je baisse trop le son, je crois. Attends, je vais essayer en baissant un peu moins. Radio FMR, il est midi, 13 minutes et 38 secondes. Vous écoutez le supplément week-end. C'est avec Thomas, avec du sport, et c'est en direct et en public.
Ouais,
bon, ça va, la boîte à rire. Si vous n'avez pas envie de lire, si finalement rester devant la télé ne vous intéresse pas, qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a les Illustres Inconnus qui font une soirée à la péniche Le Cri de la Mouette. Malheureusement, j'ai eu des problèmes, j'ai pas pu récupérer les infos, je suis désolé. Donc c'est à la péniche Le Cri de la Mouette, c'est à côté de la place Héraclès. Occupé, c'est une soirée techno, art techno, acide techno, électro techno, acide brick techno. C'est avec X-Tech, Cyberscum, Enki, Keshno et en guest DJ SKS qui le fera en sortant l'émission Breakbeat Experience sur Radio FMR tout à l'heure quand il aura laissé la place à Peyo. Ah, ça va faire bizarre, tiens. SKS qui va céder la place à Peyo, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Et DJ Gone, là aussi, avec des visuels et tout ça. Le PAF est de 8€, c'est sur place. Et au Liquid Club, c'est 2 avenue d'Atlanta. Non, là, je me suis trompé. C'est samedi 18 mars.
Encore ?
Non, c'est 18 mars. D'habitude, c'est février, je sais. Ben voilà, ça m'apprendra. Allez, hop, zou. Tiens, prends ça. Electro Dub Session... C'est mercredi et jeudi, c'est au Havana Café et au Poséidon à Toulouse, et c'est avec Radio FMR. Kali en live dub, Radio Bomb, Undergang, Tabloid, Jules, Lady, Acro et Risa, Le Fred, Hybrid Sound System, le collectif Knobs, Aguet et Tamik, et des expos, des lives, etc. Et ben tout cela, vous pourrez en savoir un peu plus en écoutant Radio FMR, et notamment l'émission du Rascal, c'est ouvert de 17 à 19. je laisse filer la musique, là. Je ferai une respiration, on va déborder, puis tant pis, hein, c'est que les Jeux Olympiques et... Ah tiens, salut du sport. Pourquoi ? Bonne question qu'on s'est toujours posée depuis un bail. Certains croient avoir la réponse. Bon, il n'y a pas de quoi rire, hein, parce que hier soir, il y a eu une manifestation contre les caricatures de Mahomet qui ont tourné à l'émeute et ça a fait 10 morts. C'était en Libye. En attendant, qui est Dieu et pourquoi ? C'est un collectif, Onap Pratut. C'est dans leur 5e recueil. Et voici un fanzine qui est dans l'air du temps, sans le vouloir et sans qu'on sache pourquoi. Enfin, je dirais, c'est un peu prémonitoire. Alors au départ, fallait en vouloir pour trouver la bulle des fanzines, hein, quand même, au festival d'Angoulême. On vous a raconté nos péripéties. Et s'intéresser à ces espèces de pitres en perruques colorées. Bon, en apportant des planches de très bonne qualité.
On a les photos, hein.
Oui, on a les photos. En tout cas, l'album, bah, c'est plutôt des planches de très bonne qualité, surfant sur pas mal de genres différents. Mais il n'y a pas que la BD, ne manquez pas une très bonne interview à l'intérieur d'Andreas. Andreas, c'est le dessinateur de Arc, de Capricorne, de toutes ces ambiances qui sont très noires, très sombres, et avec un trait qui est très, très, très à la fois droit et texturé, c'est assez étonnant. Mais il y a aussi Marc Hardy et Jean-Ry. Marc Hardy et Jean-Ry. Jean-Ry, c'est le dessinateur de Spirou, mais tous les deux, ils font ensemble une série qui s'appelle Passe-moi le ciel chez Spirou. Alors là aussi, peut-on en rire ou non? Pas du tout. Et donc, ben, c'est à voir. Collectif, Onap Pratut, qui est Dieu et pourquoi? C'est le 5e recueil qui sort, hein, en auto-édition là aussi et en distribution. Je pense qu'on se trouve chez les libraires indépendants. J'avais dit qu'il y aurait de la bataille de bouffe, alors on y va. De bouffe japonaise. Ouais. En même temps, change de CD, bah oui, bah que voulez-vous, hein, on est. Et on va commencer la bataille de bouffe japonaise avec Yakitate Japan de Takashi Ishiguchi. Gucci, excusez-moi, un SH et ensuite un CH. Takashi Ishiguchi. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Akata, donc ça veut dire que c'est Dominique Verret qui est derrière ça. Et surtout, à la traduction, il a fait venir quand même un meilleur ouvrier de France de boulangerie qui nous fait découvrir son beau métier quand même. Et dedans, et ben, dans le deuxième tome, j'en ai déjà parlé, donc c'est l'histoire en fait d'un jeune japonais qui décide de faire un stage dans une célèbre chaîne de boulangerie et d'essayer de créer un pain typiquement japonais, parce qu'il y a le pain typiquement... arabe, le pain libanais, le pain français, le pain allemand, le pain italien et tout ça. Donc il veut créer un pain japonais. C'est à hurler de rire, c'est à se déziguer vraiment les zygomatiques. Et dans le deuxième tome, eh ben, vous apprendrez comment faire un pain qui peut plaire aux chevaux ou des personnes qui sont allergiques au lait de vache. Là c'est étonnant, c'est pourquoi pas. En tout cas, vraiment on apprend énormément. Comment faire du pain dans un rice cooker? Un rice cooker, vous savez, c'est une espèce de cocotte minute spécialement prévue pour cuire le riz. Donc pour faire du pain, il faut que la température monte à 200 degrés et un rice cooker, ça reste à 110. Alors moi, franchement, je demande à goûter. Mais bah, ce qui paraît, il y a plein de gens qui l'ont fait au Japon. C'est un peu normal, hein. T'as pas la place pour avoir un four. T'as beaucoup plus souvent un rice cooker. pourquoi pas, en tout cas c'est assez rigolo. Et surtout, eh ben, il y a une compétition de boulangers qui est, si je puis dire, dessinée, hein, je veux dire plutôt filmée, manière compétition de kung-fu, c'est à pleurer de rire, moi je me tords, et en plus, eh ben, on apprend énormément de choses. Si vous êtes plutôt dans le... dans la boulange et tout ça, et ben vous allez apprendre énormément de trucs pour initier des gamins justement à la cuisine, c'est l'idéal. Vous allez vraiment vous tordre de rire. Je rappelle que quand même pour faire un bon, pour faire du pain, il faut avoir un four traditionnel, ça marche pas au micro-ondes, et que en plus si vous êtes un vrai boulanger, il faut avoir un four à humidité. Donc bonne chance là.
Et sinon rassure-moi, le... après avoir lu les bouquins, puisque moi je les ai pas lus, ouais. C'est un gars, est-ce que t'as envie de bouffer du pain après?
Ah oui, largement.
Ah bon.
Ah non, sérieux. Sérieux? Ah bah oui, non mais attends, là où je me suis installé maintenant, je peux te dire, il y a plein de boulangers traditionnels, je suis bien content, vous savez, une boulangerie traditionnelle, artisanale, celle qui a du goût et qui... Pardon. Oh, c'est une vieille compile, ça. Hate to. Les 10 ans du label Mowax, énorme.
Bon, maintenant, des nouilles.
Ouais, mais minute, je mets le CD. Je prépare le CD suivant. Donc on va parler de nouilles, Noodle Fight de Jun Sadogawa, c'est aux éditions Taifu Comics, bon, que dire, ouais, franchement, c'est un bouquin, il m'aurait bien fait rire, mais il y a quand même de sérieux manques. Mickey, c'est l'histoire d'une adolescente qui est assez turbulente. Pour la remettre au pas, sa mère lui demande de l'aider, de participer un peu à la vie de famille, lui apprendre un peu ce que c'est qu'avoir un métier, et notamment de tenir un restaurant traditionnel japonais. Vous savez, un resto familial traditionnel avec des vraies mains d'artisans et qui... Non, je vais pas la faire deux fois de suite, cette blague. L'énorme problème, c'est qu'elle a un enthousiasme aussi débordant qu'elle est expéditive. Et surtout... elle est très forte, mais sans aucune maîtrise de soi. De là, on comprend pourquoi les ouragans portent des noms féminins. Pardon. Et là, c'est d'un style humoristique où soit je me fais vieux, vous savez, je me fais vieux, je commence à voir la tremblote et tout ça. Soit il fait trop appel au quotidien japonais pour que nous, occidentaux, même très allumés, nipophilie, eh ben, on l'apprécie vraiment. Alors oui, on rit sur certains gags, mais d'autres nous laissent malheureusement de marbre. Hélas. Et là-dessus, je laisse mon camarade Thomas le soin d'en parler.
Ben, c'est marrant, c'est la première fois qu'on est absolument d'accord sur un manga, c'est-à-dire qu'il y a
des trucs, la première.
Les trucs qui font rire, justement, ben, on rit beaucoup, et il y a des trucs qui font pas rire, mais alors là, tu te dis, mais attends, j'ai loupé quelque chose, tu sens vraiment qu'il y a eu une chute quelque part, mais t'es passé à côté.
Elle est où?
C'est dommage parce que le trait est très nerveux, il y a des scènes super rigolotes.
Il y a des styles graphiques très différents, voilà. D'ailleurs, étonnamment.
Oui, où il y a la fille qui commence à s'énerver, c'est super assuré, mais tu sens que le trait est super maîtrisé également. Et dans l'histoire, ce qu'il y a de marrant, c'est que la fille, elle est super forte aussi en arts martiaux, et la seule personne qui arrive à la mater, c'est sa mère.
Ça, c'est marrant. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs, je sais plus quoi. Il y a eu une série de mangas comme ça. Où il est question d'un gamin qui est très fort et il n'y a que sa maman qui arrive à le latter.
Moi je sais plus.
Là-dessus, il y a un spécialiste à la table, mais je crois qu'il est en train de finir son bol de ramen. Donc voilà. Donc alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on y vienne quand même à ce qui est dans la cuisine française, que l'on parle un peu dans la législation, quelle est la différence entre les pâtes et les nouilles. Parce que c'est important, on parle de nouilles, là, dans Noodle Fighter, on parle pas de pâtes. Je suppose que vous connaissez la différence.
Bah ouais, c'est normal.
La différence, elle est dans la législation
les
française.
Les durs, les tendres.
Non.
Les nouilles sont plates.
Tendre.
Non.
Les nouilles, c'est blé tendre et toutes les pâtes, c'est du blé dur.
Exactement. Absolument. Mais les nouilles, il n'y a pas que blé dur, il y a aussi des
non,
nouilles
les,
à base.
Les nouilles, c'est blé tendre.
Non.
Après, on peut.
Tu as des nouilles à base de sarrasin, tu as des nouilles, mais c'est pas forcément du blé. Hein.
Oui. Non, mais après, tu peux.
T'as des nouilles à base de riz
mais,
et tout
c'est,
ça.
C'est le conditionnement de ce qui va donner les nouilles, c'est-à-dire la farine, ce dont cela vient. C'est ça la grosse différence entre les nouilles et les pâtes.
D'ailleurs, je connais un putain d'ailleurs, de restaurant de nouilles dans Edo. Franchement, ils te font des nouilles de de sarrasin primeur fraîchement germé et tout. Bon, c'est à Tokyo, mais bon, je vous donnerai l'adresse.
Les seules nouilles qui existent en France, en fait, c'est les nouilles alsaciennes. Hein.
Oui, c'est vrai, savoir, oui. Hein. À base de.
Il y a que les Alsaciens qui fabriquent des nouilles, tous les autres fabriquent que des pâtes.
Et c'est un Alsacien qui parle.
Ouais. Et ils les font à base d'œufs aussi. Hein. C'est l'une des différences.
Alors, 7 œufs frais au kilo.
Si on a objectif jusqu'à la fin, sachez que tout ce que Xavier a appris sur les nouilles, c'est pas dans le manga qu'on les apprend, c'est ailleurs. Hein. Parce que dans le manga, il est absolument pas question de nouilles d'ailleurs.
C'est une bonne précision. On enchaîne avec, à mon avis, ce qui est l'un des bons chefs-d'œuvre de cette année. Il s'agit de Venman, dont on avait déjà parlé d'ailleurs en décembre dernier pour un collectif Coïncidence.
Oui, entre le scénario et le dessin, à partir d'un scénario unique, comment.
Voilà, et c'était un scénario de Venman. Voilà.
Il est un mot de Marsan d'ailleurs, comme moi, mon compatriote.
Oui, d'accord. Et un dessin de Gazzotti, ça s'appelle Seul, c'est une nouvelle série, le premier tome s'appelle La Disparition, c'est chez Dupuis. Alors, prenez une grande ville, hein. Une grande ville avec ses centaines de milliers de vies et leur quotidien qui se croisent souvent, s'ignorant mutuellement. Et une nuit où tout le monde disparaît, mystérieusement, sans raison ni cri égard. Et la ville devient une immensité vide, sans la magie de la quiétude de la nuit, au contraire, mais plutôt l'angoisse d'une journée précédant un orage, vraiment une très très forte tension. De cette immensité de béton, de briques et de verre, un, puis deux enfants errent sans but, sans comprendre, sans aide. Finalement, ils vont se retrouver à cinq. Et ce sont cinq enfants qui sont d'origine très différente. Il y en a un qui est dans une maison de. Qui vient d'une maison de correction, l'autre, son père, est un grand patron. Et ils vont devoir composer ensemble. Tout leur est permis sans les grands, mais un doux Gérode, et finalement, ils aimeraient bien retrouver tous les autres, grands. On retrouve quand même le dessinateur qui a su reprendre Soda à partir du quatrième tome. Soda, vous savez, l'histoire du prêtre flic, enfin du faux prêtre, vrai flic new-yorkais. Un scénario assez angoissant, un dessin très léché qui est aussi notre gros nez réalisme. C'est vraiment l'école Genry, hein. C'est vraiment l'école de Spirou, de ce côté-là, normal, puisqu'ils ont fait atelier ensemble, justement, pendant plus d'une dizaine d'années. Et on retrouve les couleurs flashy du studio Cerise. C'est vraiment la production Dupuis, mais, voilà. C'est une très grande série qui commence, une très grande série d'angoisse, et franchement, il ne faudrait pas la prendre en route. Velman au scénario, Gazzotti au dessin, Seul, le premier tome s'appelle La Disparition, et c'est édité aux éditions Dupuis. Et ça vaut vraiment le coup, voilà.
Là, je vais te l'attaquer, c'est...
Je préfère qu'on évite d'en parler à l'antenne, s'il te plaît, de ça, hein, ok ? Après, on me fait des remarques. Ouais, tu la prêtes à un tel. Non.
Ah, mais tiens, je te la.
Bon, écoute, tu sais quoi, Thomas ? Ferme-la parce que là, c'est l'heure de la pub. Là, il y a la régie finale qui va nous couper puisqu'il est exactement midi et 30 minutes.
Suite et fin des alternatives sessions les 22 et 23 février au Havana Café. Session née sous le signe du dub et de la drum and bass. Acro et Wizla, Undergang, Bluff Red, MC Tabloïd, le mercredi 22. À Systématique et Cali Live Dub le jeudi 23. Alternative et Underground, ce sont les alternatives sessions le 22 et 23 février au Havana Café.
Oui, alors il faut pas compter quand même sur le fait qu'on puisse vous répondre à l'antenne. Donc si vous appelez, vous êtes gentil, vous laissez directement votre numéro de téléphone. Parce que là, Thomas doit faire sa chronique et là, il est pendu au tel. Donc voilà. Néanmoins, vous pouvez nous laisser des messages sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Et là, vous avez les liens directs d'ailleurs avec nos émissions, avec le flux podcast et tout le reste. Vous pouvez réécouter les anciennes émissions et notamment, il y a tout le débrief qu'on a fait sur Angoulême et notamment les émissions hors série qu'on a fait, qu'on devait diffuser, mais qu'on n'a pas pu diffuser à temps pour des raisons bassement techniques. Et ouais, Groove Rider était en concert hier, malheureusement. Mais l'ambiance là.
Ouais.
Ça tombe bien, Thomas.
Oui, on a une place à faire gagner si vous aimez le théâtre humoristique. C'est une pièce qui aura lieu ce soir au Burgo à partir de 21h. C'est un spectacle humoristique qui s'appelle Je dis ça, je dis rien. Un peu dans la tradition Buster Keaton, c'est très rigolo. Donc vous pouvez appeler la radio
05 61 580 580. Et le premier qui appelle la gagne. Et puis voilà, Thomas, à toi de... Non, pas... Oui, vas-y, à toi donc de faire ta rubrique.
Alors,
Peter si on... Chung. Peter.
Ouais, Peter, t'as pas un jingle, hein?
Un truc vraiment noir
un... Non, le jingle cinéma.
Bon, d'accord, ok, allez, hop, on en va avec ça.
Donc ça tombe bien parce qu'il ne sera pas du tout question cinéma aujourd'hui.
Je crois qu'il est encore question d'une sortie technique, c'est ça?
Exactement, ça se concerne la sortie technique d'un film dont on devait vous parler qui s'appelle Aeon Flux, le film avec Charlize Theron et réalisé par Karin Kusama. Sauf que ce film a bénéficié donc d'une sortie technique. Qu'est-ce que la sortie technique? Alors évidemment c'est pas que le panneau sortie de secours dans le cinéma. C'est surtout c'est ce qu'on appelle
une expérience traumatisante de la cinématographie.
Voilà, c'est quand vous êtes obligé d'aller prendre votre voiture et d'aller à l'extérieur de Toulouse pour aller voir un film qui ne passe que là-bas. Et c'est surtout la sortie d'un film dans lequel le distributeur ne croit absolument pas. Donc on avait eu déjà un exemple avec Appleseed, le film d'après la manga de comment il s'appelle déjà, de Shiro,
de Masamune Shiro.
Voilà. Et maintenant c'est Aeon Flux. Alors effectivement, il s'agit de deux films de SF inspirés d'animation asiatique, enfin de manga, de voilà, sur le monde de la japanime. À croire que seul, et on va se poser la question si uniquement les univers à la Ghibli ont le droit de citer dans nos contrées quand même. C'est peut-être aussi que les films sont moisis, je pense, on se pose la question. C'est vrai qu'un peu s'il était assez pourri, celui-là on...
Savez, vous achetez une bouteille, il y a marqué Bordeaux dessus, vous dites mais bon, un grand curu bourgeois, et vous faites ah super, etc. Vous savez que la liqueur qui est dedans est très bonne, et quand vous l'ouvrez, le bouchon a complètement corrompu le vin, et qu'en plus il a été stocké au soleil, bref, c'est du vinaigre. Alors évidemment, face à du vinaigre, on ne peut être que corrosif, et non, on s'abstiendra, puisque finalement...
Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous parler de qui est Peter Chung, qui a réalisé la série animée Aeon Flux, qui a inspiré le film. Alors Peter Chung, vous allez comprendre tout de suite, vous avez déjà vu ce qu'il a fait quelque part, même si vous n'avez pas retenu son nom. Il s'agit d'un réalisateur, animateur coréano-américain, puisqu'il est, il est né en Corée, il travaille à
Los Angeles,
à Los Angeles, et qui fait la navette régulièrement entre le Japon, la Corée, la Corée du Sud, les États-Unis. Il parle parfaitement français, puisqu'il a étudié le français dans une école marocaine. Et puis, pour avoir parlé avec lui, il est super abordable.
Et d'ailleurs, là-dessus, c'est justement, ce parcours est très intéressant à annoncer, parce que c'est ça qui fait justement tout son univers, qui fait qu'on est très très loin de l'animation asiatique en général.
Exactement, il s'agit d'un ancien intervalliste qui a d'ailleurs été animateur sur la série Transformers. Je sais pas si tu le savais. Et il est surtout connu pour avoir réalisé, scénarisé et animé la série Aeon Flux, la série sur MTV dans l'émission Liquid Television en 91.
C'est pas une émission, c'est une case qui est réservée à l'animation elle-même, voilà.
Voilà, et c'était une série qu'il avait faite en 91, et puis une deuxième série en 95, car la première s'agissait de petits épisodes de 5 minutes environ, la deuxième comportait une dizaine d'épisodes de 26. Il était également character designer sur la série Alexander. Il s'occupait que du design des personnages. C'est une série qui était sortie en 98, qui revisitait un petit peu le mythe d'Alexander, de façon très différente d'Oliver Stone d'ailleurs. Il a par la suite évidemment collaboré aux 9 segments d'Animatrix. Vous savez, ces courts-métrages issus de l'univers de la trilogie Matrix. Il s'est occupé du dernier segment qui s'appelle Matriculé. On vous en parlera tout à l'heure. Et dernièrement, il a réalisé les Chroniques de Riddick Dark Fury, qui était le court-métrage d'animation qui liait Pitch Black aux Chroniques de Riddick, qui est sorti directement en DVD. Il a également réalisé la pub pour la Civic en animation. Je crois qu'il reprenait d'ailleurs le personnage d'Ion Flux dans la pub.
On précise que c'est une pub qui a été diffusée aux États-Unis. Hein, vous l'avez pas vue en Europe.
Et il a aussi bossé sur le générique des Razz Moquette. Ça, je sais pas si tu le savais.
Bah oui, puisque c'est quand on l'a rencontré qu'il me l'a dit.
Ah, je me rappelle. Ah oui, mais toi, tu es resté plus de jours que moi, donc il a certainement dit le deuxième jour. Alors, on va récapituler depuis le début, là, pour un peu entrer dans les détails. Donc, Aeon Flux, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux séries. Et alors, si vous connaissez pas Aeon Flux.
Il faut préciser pourquoi il y a eu autant de collaborations, excusez-moi. C'est que la Corée du Sud est un pays qui est un gros sous-traitant de l'animation japonaise et de l'animation européenne. C'est-à-dire, si vous vous souvenez de Blake et Mortimer, ça a été dessiné en partie en Corée du Sud, justement. Et idem pour Cyber Six. Donc voilà.
D'accord. Donc, Aeon Flux, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une héroïne bardée de cuir. Alors, si vous connaissez peut-être, vous avez vu les photos de Charlize Theron. Le design de Peter Chung, sont des anatomies dont le bassin est super proéminent. C'est complètement difforme, avec des jambes de 3 km de long. Il s'agit d'une mercenaire qui veut buter un tyran, mais dont elle est également amoureuse, et qui s'appelle de Trevor Goodchild. Un nom rigolo. Qui est aussi un docteur expérimental. Alors, ils ont tous les deux des relations SM. Vous pouvez déjà imaginer tout ce que ça peut générer en situation intéressante. Et cette héroïne a une particularité, c'est qu'elle meurt à la fin de presque tous les épisodes. Et il me revient en tête, puisque je me suis rematé la série hier soir, un épisode qui s'appelle Gravité de 5 minutes, qui est absolument génial. Ça commence par un plan à l'intérieur de deux bouches qui sont en train de se faire French kiss. Et il y a une langue qui met une capsule dans une dent creuse de l'autre bouche. Et Aeon Flux est en train d'embrasser donc Trevor Goodchild, qui est dans son train, et elle est dans un avion. Avec son avion, elle s'éloigne un peu, elle prend connaissance de la mission dedans, le message continue dans sa dent creuse. Et en essayant de sortir de son avion avec un filin pour essayer d'aller récupérer une bagnole dans laquelle elle devait assassiner un mec, en fait elle se prend les pieds dans le fil et puis elle tombe, elle fait une chute libre. Alors qu'est-ce qu'elle se dit? Bon, je vais me craser la gueule de toute façon, donc je vais me cramer la tête avec mon flingue. Tiens, il y a des mecs en bas, je vais sortir mes jumelles. Et là, pendant 5 minutes, elle est en train d'essayer de voir ce que font les mecs en train de tirer qu'est-ce qu'ils sont en train de tirer avec un câble au bord d'un ravin. Et puis pendant tout le cours, elle est en train de se débattre avec les jumelles. Tiens, je me rapproche de plus en plus du sol. Et puis à la fin, elle s'écrase comme une merde.
C'est pas le seul, hein. Ils sont tous très bizarroïdes, avec mal d'actions répétitives d'ailleurs, mais ils sont plein d'entre eux.
Il y a plein d'idées drôles. Il y a un épisode où elle est clonée et que c'est le clone à la fin qui finit comme l'Avrian Flux, la celle de départ est devenue une esclave sexuelle de Trevor Goodchild. Et dans un épisode, on implante dans le dos de personnes des espèces de bidules électriques pour qu'ils puissent se contorsionner à l'infini. Dans une autre, on a des créatures ailées qui font que toutes les personnes qui les voient sont impitoyablement amoureuses d'elles, etc., etc. On implante aussi des consciences métalliques en forme de fil de fer. Alors ceux qui ont vu le premier Matrix, ça va vous rappeler des souvenirs. Et voilà, en tout cas, Enoflux est une série complètement barge, avec des mecs qui ont des piercings à chaque téton, bardés de cuir, des lanières de partout. C'est vraiment un truc à voir. Assez bizarre, la musique au synthé complètement ch'tarbe également. C'est pas à mettre devant tous les yeux. Si vous aimez être surpris, voilà, je pense que ça va être le mot-clé pendant. Si on parle de toute la filmo de Peter Chung, il a aussi réalisé.
Oui. Enfin, surtout, on parle bien de la série animée, on parle pas du film.
Ah non,
on
rappelle, le film, on l'a pas
vu, film donc, de toute façon, ça, on peut en parler de direct.
Ouais, le film, on peut juste citer la fin de critique de Aeon Flux, le film dans le Mad Movie de ce mois-ci. Hein. Alors, deux dernières phrases, c'est vraiment très dur hein, quand même. Enfin, ils ont l'habitude.
Ils ont trouvé à chier donc.
Ouais, je cite. Au final, le spectateur aura donc la désagréable impression d'assister à un triste spectacle pâteau, tout juste remis au goût de la veille. Quant à savoir s'il s'agit d'une adaptation fidèle de la série animée de Peter Chung, on dira juste qu'il vaut mieux éviter les sujets qui fâchent.
Ah ouais.
Ah d'accord.
Ah oui.
Ok. Bon, sachez que la série Enflux est dispo en DVD, évidemment. Donc autant aller se précipiter sur ce DVD en attendant de voir le film si on arrive à le voir un jour. Alors, Alexander, on va passer vite fait parce qu'il s'occupait que du caractère design. C'est une série de 13 épisodes de 26 minutes. Alors, si vous avez vu le film d'Oliver Stone, c'est à peu près la même histoire, mais revisité de façon totalement différente. Puisque, donc, Olympias, la sorcière, donne un fils au roi Philippe II, ce fils qui est Alexandre. Et Alexandre, chevauchant Bucéphale, un cheval fou démoniaque, va essayer de piétiner tous ses adversaires. Alors il va devoir affronter des complots, ourdi par une secte adepte du solide de Platon. Alors il y a beaucoup de questions de mathématiques qui sont énoncées par une voix off dans tous les pré-génériques avec une espèce de terre plate en 3D, mais moche. Alors s'en suit ensuite deux mecs silhouettes robotisés en train de survoler une ville fantôme. C'est complètement ch'tarbe également. Et d'ailleurs, on va voir rien que pour vous faire une idée, la rencontre entre Diogène et Alexander. C'est Diogène, il vit dans un tonneau, mais le tonneau il contient tout l'univers ramassé dans un espèce de truc en bois. Enfin, c'est complètement. Vous pouvez le voir, mais ça vaut surtout par son style visuel qui est à l'opposé de ce qu'on pourrait faire dans la reconstitution de film d'épopée.
Voilà. Je veux pas te lancer, c'est la première Stone, hein, mais bon, non. Elle était nulle.
Matriculé, donc c'est le dernier segment d'Animatrix. Alors pour moi, c'est le meilleur segment d'Animatrix. Je sais pas si du sport tu l'as pas vu. Disponible en DVD, c'est celui qui est en 3D à la fin, pas la 3D Final Flight of the Osiris qui était passé sur France 2, mais l'autre, hein, celui qui est bizarre. Avec des couleurs criardes. Il s'agit de groupes d'humains qui sont en train de reprogrammer une machine, mais pas en lui lavant le cerveau, en essayant de le convaincre que le clan des humains, c'est beaucoup mieux que le clan des machines. Alors, la machine, elle est plongée dans un univers tout doré. Il perd son armure métallique, il devient une bille qui s'engouffre dans un entonnoir. C'est vraiment le mec, on se demande ce qu'il a fumé.
C'est assez onirique dans l'univers dans lequel il plonge la machine, mais alors l'extérieur, putain, c'est noir.
Mais c'est vrai que
fait peur.
C'est super inventif et tu vois vraiment ce qu'un véritable artiste peut faire avec le matériau de Matrix, ce qu'avait aussi réussi à faire Morimoto avec le segment le bug là. Je sais plus comment reprogrammer ou je sais plus comment il s'appelait. Et on va finir par la dernière œuvre dont on va parler aujourd'hui de Peter Chung qui s'appelle Les Chroniques de Riddick Dark Fury qu'il a réalisé en 2004. C'est un court-métrage d'animation qui est disponible en DVD chez Universal et, comme on l'a dit tout à l'heure, fait le lien entre Pitch Black et les chroniques de Riddick. Et c'est en animation, on retrouve les personnages de Riddick, d'Imam et de Jack, pour ceux qui connaissent Pitch Black, et qui donc sont les seuls survivants du premier film, et qui sont dont le vaisseau est capturé par une espèce de sorcière qui veut se faire une collection de hommes exceptionnels empaillés transformés en statues. Évidemment, il y a Riddick.
C'est gay, ça.
Voilà, qui est dans le vaisseau. Alors,
Vin Diesel, effectivement, ferait bien dans cette collection-là.
Ouais, ah bah oui, grave. D'ailleurs, il est pourchassé par tout ce qu'un vaisseau peut contenir de porte-flingues, d'animaux affamés, reprogrammés. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu une critique sur le net où, qui critiquait un peu l'aspect visuel du film pour la laideur des personnages, puisqu'ils ont travaillé à partir des vrais acteurs du premier film.
Ouais.
Et ils disaient que Riddick, c'était un clone d'André Pousse.
Ça a été beaucoup fait rire. Des chroniques comme ça, il va falloir que sur le net tu mettes les liens. Hein. Je suis désolé.
Oui, oui.
Enfin bon, parce que là Thomas il a rédigé ses textes, etc. Donc là il va mettre les liens cette fois-ci, donc vous inquiétez pas.
Ouais.
Donc, donc c'est
voilà, si vous aimez de façon Vin Diesel et si vous avez aimé Pitch Black et les chroniques de Riddick, vous pouvez aller voir. Non, t'as pas aimé toi du sport?
Les chroniques de Riddick.
Ah, oh, moi j'ai.
Oh, c'est poussif.
Hein? Ah, j'ai vachement aimé, moi. C'est encore, enfin un film d'action à l'ancienne. Y a pas de blague, t'as pas de second degré, on y va à fond.
Ouais, mais enfin bon.
Ouais. Ouais, bon, bah, comme moi je laisserai la parole à un aigri, hein, à ce sujet.
Ah, c'est du sport. N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. Il est pire que moi.
Désolé. Oui. Donc, voilà, si vous voulez voir du Peter Chung, précipitez-vous sur le coffret Nuflux en DVD. Les chroniques de Riddick, c'est peut-être moins indispensable si juste pour les fans purs et durs des deux films. Alexander, il s'est occupé du character design. Si vous aimez bien la mythologie, vous pouvez aller voir du côté de cette série, mais attention, c'est pas du tout comme vous pouvez l'imaginer au premier abord. Et surtout, je pense que si vous aimez Matrix, vous pouvez vous procurer les cours Animatrix, et surtout le dernier Matriculé, qui constitue une des pièces maîtresses de ce recueil. Voilà.
Eh ben merci Thomas, et en tout cas on rappelle qu'une sortie technique, et ben malheureusement on ne l'a même pas vu, donc on ne peut pas le chroniquer, donc on peut juste dire que la critique dit que le film est mauvais.
Ouais. Il faut dire que une sortie technique, en fait, hein, c'est parce que un distributeur qui a acheté un film est obligé de le montrer. Il a un certain quota de diffusion de films dans les salles à avoir. Il est obligé de le faire, donc c'est pour ça que c'est
produit.
Ah,
ça, tu vois. Voilà. Ça, tu vois, on n'a même pas réussi à le faire dire ni aux attachés de presse, ni à trois journalistes de cinéma qui sont à la télévision. Non, mais on connaît trois journalistes qui passent à la télévision. Et ben, je peux vous dire, il y en a aucun qui nous l'a dit, qui le savait.
Mais
c'est quand même fort.
C'est parce que ça fait partie des sujets qui sont chiants et barbants au possible, parce que bon, il s'agit de problèmes de pognon, de problèmes financiers uniquement, et que c'est la partie la plus immergée hein, de l'iceberg. On peut dire le iceberg cinéma hein, de toute façon, quoi, à ce niveau-là. Et c'est pour ça, c'est également quand il n'y a pas de contrat qu'on peut faire du direct to DVD, quand il n'y a pas eu de contrat qui a été signé avec tel pays, et c'est pour cela que il y a très souvent des films qu'on n'arrive pas à voir dans les salles en France, qu'on voit d'abord en DVD hein, ou en cassette, enfin comme vous voulez, et tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'accord, parce que tel pays n'a pas acheté, tout simplement. Voilà.
Ça tombe bien, c'est du sport. Midi 49 minutes et 33 secondes.
Ouais.
Alors attention, on y va. Supplément week-end sur Radio FMR.
Que hay en el fin de la noche. Cuando tu amigo más fiel se despide, que hay al final del silencio, cuando la última estrella se apaga y no queda nada. Necesito descubrir
para escaparme de aquí. Todos quieren entender que existe en el fin, que existe en el fin. Más conmigo esta noche. Siento hastío total, derroche continuo de sexo en tu coche. Palabras banales, inercia del tiempo, errores infames. El pasado más cruel
de la humanidad. Ah, il est content de son coup, la Duce.
Ah, et pourquoi?
T'as repéré qui c'était?
Antonio Birabent.
J'en ai déjà parlé dans les scènes passées. Je sais pas si vous vous en souvenez.
C'est le mec d'Epitaphios.
Chose promise, chose dute. Le serial killer de Epitaphios. C'est le monsieur qui chante sa chanson très gentille. Et qui a d'ailleurs sorti tout un. C'est un CD complet qui s'appelle Buenos Aires. Bon, le monsieur Antonio est comédien et également chanteur en Argentine, vachement connu. Et c'est lui, ce tueur absolument innommable, qui durant les 13 épisodes d'Epitaphios, il n'arrête pas de faire chilier Julio Chavez, qui interprète Renzo Marquez, le commissaire, l'ancien chauffeur de taxi. Et ça finit très mal. Alors c'est vachement marrant. Bon, je vais pas vous raconter la fin pour ceux qui l'auraient pas vu, qui auraient envie de le voir. Enfin bon, c'est évident que le mec se fasse dégommer à la fin. Il cherche que ça, de toute façon. C'est le propre des serial killers, de toute façon. Catch me if you can, délivrez-moi, enfin bon, tout le truc, le trip habituel, psycho. Mais la fin est l'inverse carrément, l'opposé, le total opposé carrément de la fin de Seven. Seven qui est un petit peu un film de référence niveau serial killer. On avait eu Le Silence des Agneaux qui avait inauguré un petit peu le genre. Enfin bon, film grand public, on va dire. Okay. Et ensuite, Seven qui a assis le genre, on va dire, qui a dit bon, ok, on a tout dit. Quoi. En fait, Fincher, dans le film, il a dit bon, ok, essayez plus de faire un film de serial killer. Il y avait également Henry Portrait OS Serial Killer qui était vraiment excellent. Certainement le meilleur du lot, de toute façon. Mais là, dans Epitaphios, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'attend à ce que le mec se fasse gauler à la fin, qu'il se fasse dégommer, un truc comme ça. Alors, c'est assez marrant parce que c'est la fin est comme dans Seven, c'est-à-dire le flic obligé de tuer le mec. Bon, on s'y attend un petit peu. Mais le pourquoi et les conséquences de ce geste, c'est-à-dire tuer enfin le serial killer, c'est tout à fait différent de la fin de Seven, quoi. Donc c'est pas mal, mais la fin est vraiment très triste aussi, de toute façon, quoi, parce que tout le monde y laisse des billes, de toute façon, il y a pas de problème. Mais c'est vachement bien foutu. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a une rediffusion d'Epitaphios, profitez-en, ça vaut le coup. Excellente production de HBO. Amérique du Sud, on va dire HBO, olé, voilà, olé. Alors, ça fait 15 jours que j'essaye de vous en parler, chaque fois j'oublie, ça me fait chier. Alors bon, maintenant quand même, la nouvelle est un petit peu, on va dire, sans un petit peu le renfermer, c'est de vous parler du décès, de la disparition de Shelley Winters, une excellente grande actrice du cinéma américain. Qu'on a pu voir chez Shelley Winters, elle a traversé 4 décennies tranquilles de cinéma américain, La Nuit du Chasseur, Lolita, j'en passe et des meilleurs, enfin bon, c'est même pas la peine d'en rajouter, de toute façon, excellente, très grande actrice, donc qui est décédée il y a une quinzaine de jours. Dans un registre tout à fait différent, également dans la rubrique Necro, ça je l'ai lu juste ce matin, quoi, et ça c'est plus musical, c'est la mort de Ray Barreto, qui n'est pas un musicien cubain, non, il est d'origine portoricaine, mais il est né à New York. C'est un monsieur de la musique salsa portoricaine, des rythmes afro-cubains, qui est absolument incontournable, et tellement incontournable que même le bodybuilder Lavilliers l'avait pris, on l'entend dans un morceau, il dit Ray Barreto, quand il a commencé à utiliser un petit peu la salsa pour rebooster ses ventes de disques, on va dire. La télé cette semaine. Alors c'est ce soir.
Si je lui dis bodybuilder en face, à mon avis, je peux fuir.
Ah mais il était à l'époque à fond. Il sortait avec une bodybuildeuse championne du monde, donc laisse tomber quoi.
La mauvaise nouvelle, c'est que enfin à la télé ce soir, les téléspectateurs et téléspectatrices qui vont regarder TF1 ben, vont être mis en face de leurs propres contradictions et vont savoir ce qu'est vraiment la merde, vont comprendre qu'est-ce qui se passe et s'ils sont pas trop cons, ben, vont se dire ah bah putain, on est exactement dans le même état, on est exactement dans la même situation. C'est ce soir que débute une nouvelle émission de télé-réalité qui s'appelle Le Royaume.
Ah oui, c'est vrai.
Le Royaume, c'est quoi Le Royaume?
C'est une, c'est une télé-réalité qui joue sur la réalité des sentiments. C'est comme ça que je l'avais vu et à ce qui paraît, c'est assez froid. Bon, faut savoir aussi que la série a été tournée il y a un an et que Patrick Lelay, il a vu le premier montage, il a pas du tout aimé et ils ont dû retourner, enfin non, refaire tout le montage, etc. Et en fait, on a pris des gens et on les met, on les a transportés en Pologne. Donc les yeux, les bandeaux sur les yeux, etc. Ils savent pas où ils sont. Ils se retrouvent en plein Moyen-Âge. C'est-à-dire tout le monde est costumé comme au Moyen-Âge, etc. Il y a des règles sociales comme au Moyen-Âge. Et pour aller jusqu'au bout dans l'immersion, même les techniciens étaient avec des caméras en bois. Non, je déconne, mais ils sont allés très loin. Quoi.
Ouais, bon, mais là où ça va très loin, justement, c'est que bon, bah, on repositionne dans ce jeu, si on peut appeler ça un jeu, on repositionne un petit peu les histoires de caste, de hiérarchie telles qu'elles existaient au Moyen-Âge. À savoir que dans ce jeu, eh ben, il y a un roi hein, parmi les participants qui peut choisir trois seigneurs. Tout le reste, c'est la plèbe, c'est les manants qui doivent faire hein, tout ce qu'ils peuvent. Alors, le roi habite dans le château avec ses trois seigneurs. Il a pouvoir absolu sur ses sujets. Hein. Il peut leur faire faire tout ce qu'il veut. Hein. Il paraît qu'il y a une scène où le roi demande à une nana de réchauffer sa couche le soir avant qu'il s'endorme. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Bon, ça va pas beaucoup loin. Ça va pas loin. Je veux dire, on verra pas de cul, des trucs comme ça. Mais enfin, bon, ça... pour te montrer un peu le style, hein, l'esprit, l'état d'esprit. Hein. Alors, il faut savoir aussi que, bon, bah, bien sûr, le roi ne reste pas tout le temps le même. Hein. Il y a des épreuves et tout où le roi doit combattre contre un de ses sujets. Généralement, c'est un des trois seigneurs qu'il a choisi. Mais il y a également des possibilités où le roi peut être déchu, bien sûr, s'il perd son combat. Il peut également être déchu par un des malans, par la plèbe, bien entendu, au cours d'épreuves diverses et variées. Bref, ça s'annonce vraiment palpitant. Hein.
Surtout que, ce qui paraît, il y en a qui sont vengés d'autres parce que justement, ils s'étaient mal comportés. Et
voilà,
donc,
voilà.
C'est vraiment l'escalade. L'escalade.
Et d'après les autres commentaires que j'ai pu lire à droite à gauche, la tendance est que on remarquera que les nanas sont peut-être plus rigides quand elles détiennent le pouvoir, mais également un petit peu plus tolérantes que les mecs. Bon, voilà, tout ça c'est dans le royaume ce soir, hein, totalement dispensable de toute façon. Du côté des séries, il y a de la nouveauté, il y a de l'inédit quand même cette semaine avec malheureusement une diffusion qui moi me fait chier franchement quoi, diffusée en plein dimanche après-midi, c'est n'importe quoi. Hein, ça va être noyé dans la foule de toute façon, juste après un petit Nash Bridges comme ça, allez vas-y, on te balance une série qui est tout à fait récente, hein, qui a d'ailleurs dont l'interprète a été nominé au dernier Golden Globe Awards. C'est pas n'importe quoi. Ça s'appelle The Closer. Bien sûr, c'est pas le titre en version française. Vous n'avez pas pu voir ça dans votre programme. En version française, ça s'appelle LA Enquête Prioritaire. hein, fallait le faire quand même. C'est produit par un monsieur qui s'appelle Rod Lurie, hein, qui a également une autre série qui marche plus fort que celle-là d'ailleurs aux États-Unis, hein, qui s'appelle Commander in Chief, qu'on n'a pas vu ici en France et qui, dans le pitch est tout simple, hein, c'est l'histoire de l'histoire et les agissements de la première femme présidente des États-Unis, interprétée par Gina Davis. Donc, là, dans cette série, eh bien, ça raconte l'histoire d'une fliquette, hein, qui est patronne de son équipe de détectives et de policiers, mais qui part d'Atlanta donc pour aller en Californie intégrer une nouvelle équipe dont elle sera également la chef. Alors déjà une nana qui arrive, ça fout les boules quoi, tu vois. C'est la nana, c'est Brenda Lee Johnson, interprétée par Kyra Sedgwick. Madame Kevin Bacon, mon gars. Ah. Et en face d'elle, elle va trouver des mines patibulaires, genre J.K. Simmons, le mec qui interprète Schillinger dans Oz, ou le patron du journal dans Spider-Man.
Ouais.
Y a également Will Pope, c'est qui joue le rôle de Will Pope. Donc tout ça, ça passe sur France 2. Demain à partir de 17h. Bon, dommage, bon, on jettera quand même un œil. Un œil, bah justement, Eyes, cette série dont je vous ai parlé la semaine dernière. cette espèce d'histoire d'enquêteur à la Mission Impossible, hein, qui essaye. En fait, c'est une agence Judd Risk Management, ça s'appelle, hein, dont le patron est interprété par Tim Daly, donc, et qui est chargé de retrouver de l'argent perdu, genre. Et un mec qui a soutiré 100 millions de dollars, qui a fait disparaître 100 millions de dollars des écritures d'une grosse boîte. Attention, 14 000 emplois sont en jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais attends, je peux vous retrouver votre somme et tout, à condition que vous me versiez 7% plus. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, avec une équipe super sophistiquée, dernier cri au niveau électronique, dernier cri au niveau informatique, plus, bien entendu, des gens sur le terrain, hein, avec, en plus, une petite histoire interne qui est pas désagréable du tout, hein, avec une histoire d'une taupe infiltrée dans cette équipe. Ça démarre pas mal, le ton est un petit peu gênant, quoi, on va dire, parce que ça a l'air vachement clean, c'est l'éclairage super bien, il fait beau partout, tout est super bien éclairé, c'est classe, tu vois, c'est pas glauque, c'est pas sombre du tout, alors que des fois bon bah il y a quand même des trucs qui sont un petit peu glauques. Bon bah, par ça se laisse regarder tout à fait agréablement. C'est sur Canal Jimmy le jeudi en première diffusion à 20h45, ou alors le samedi, c'est-à-dire ce soir 23h15, rediffusion donc des deux premiers épisodes, dont l'épisode pilote du Stargate SG-1. Vous en voulez?
Le retour.
Yes. Ah, le retour. Alors déjà, pour se mettre dans le bain, je vous propose la saison 8, qui a déjà été diffusée par M6, mais qui est diffusée à partir de vendredi prochain sur Série Club à 20h50, à raison de 3 épisodes par vendredi. Mais par contre, sur M6, dès ce soir 20h50, eh ben, on a la saison 9. La mise à la retraite de Richard Dean Anderson.
Ouais,
il se faisait vieux, le pauvre, tu te rends pas compte, 8 années quand même pleines à la tête du SG1. Merde, il en a eu marre.
Enfin, peut-être qu'il se démerdait mieux dans MacGyver.
Ouais, non, il passe la main, mais attention, il passe la main pour du gros calibre, on va dire, quand même, parce que c'est Ben Browder qui reprend la suite. Ben Browder, c'était l'interprète de merde, je me rappelle pas le nom de son personnage dans Farscape. Hein, cette excellente série de science-fiction.
Qui était produite par Hanson et qui s'est arrêtée trop tôt, malheureusement.
Qui nous vient de Nouvelle-Zélande, d'Australie et tout ça. Mais bon, qui s'est arrêté au bout de 3 saisons. Hein, les fans étaient là sur le net, ils ont fait chier la chaîne pour qu'ils essayent de continuer, mais ça s'est quand même arrêté. Peut-être qu'on va y gagner, hein, à retrouver Ben Browder dans Stargate, surtout qu'il y retrouve une nana qu'il avait déjà côtoyée dans Farscape, Claudia Black. Qui est d'ailleurs une des nanas qui se fait dégommer dans Pitch Black.
Bon, ouais, d'accord.
Ça tombe bien, la boucle est bouclée.
Eh ouais, la boucle est bouclée. Donc la saison 9, c'est à partir de ce soir sur M6 à 20h50. Et il faut savoir, excusez-moi, que Stargate SG1 marche tellement fort, hein, que la chaîne Sci-Fi Channel qui produit la série, eh bien, a décidé d'enclencher une 10e saison, ce qui fait que Stargate bientôt ça va être la série de science-fiction qui aura le plus d'épisodes, loin devant Star Trek, hein, loin devant Star Trek.
Attention, parce que Star Trek c'est plein de séries dérivées.
Voilà, c'est ça, Star Trek il y a les séries dérivées, hein, et même si Next Generation est arrivé jusqu'à la 7e ou la 8e saison me semble-t-il, hein, eh bien, Stargate est loin devant.
Et Stargate Atlantis, ça en est où? C'est fini?
Attends. Je suis désolé. Il y en a une qui est largement devant du sport, et tu sais très bien que j'en suis super fan.
Oh non, pas Doctor Who.
Voilà.
Oh non.
J'ai même pas besoin de le dire. Celle-là, elle a largement au-delà des 10 saisons, hein. C'est 25 saisons, je crois, un truc comme ça.
Ouais. Bon. Hors catégorie, de toute façon, quoi. Alors, on va dire adieu prochainement à pas mal de séries, hein. Je parlais avant de la fin de Farscape, hein, qui n'a duré que 3 saisons. Il y a des séries qui ont connu, eh bien, plus de succès, on va dire, hein. Je vais parler essentiellement des séries qui disparaissent des networks américains et par le biais, hein, bien entendu, des networks européens et de nos écrans. Alias, au bout de 5 saisons, ça dégage.
Au revoir.
Diffusé par ABC. Arrested Development, c'est une série qu'on avait pu entreapercevoir avec une diffusion un petit peu chaotique sur TPS, me semble-t-il. Ça s'arrête également, hein. Là, c'est pareil, un petit peu dommage. Malcolm, 7 saisons, stop. That 70 Show, une saison de plus, c'est-à-dire 8 saisons, stop. Ça, c'était que du CBS. Du côté de NBC, on vire William Grace après 8 ans de bons et loyaux services. Et West Wing, à la Maison Blanche, ah bah, après 7 ans de bons et loyaux services.
Ça me semble un peu, ça me semblait un peu normal parce que je le voyais mal entamer un troisième mandat quand même.
Ah ouais, mais pourquoi mais pas c'est dommage. Le retour dans le retour dans le, dans la, dans l'opposition. Merde, je sais pas quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais ils sont pas très actifs, les anciens présidents. Et... dans l'opposition aux États-Unis.
Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, il n'y a pas d'opposition. Charmed, 8 ans à dégager également hein, par le network Warner. Voilà, adieu donc à toutes ces séries. Rediff qui est agréable, on va dire. Hein, moi j'aime bien. De toute façon, hein, c'est une série qui n'a connu que 2 saisons et bon bah qui devait dégager de toute façon parce que bon la première était pas mal, la deuxième s'engageait dans un truc un petit peu différent, mais bon on savait plus trop où ils voulaient en venir. C'est Dark Angel, hein, la yes. série produite et dont le pilote a été réalisé par James Cameron avec c'est l'occasion de revoir
Jessica Alba
avant les Fantastic Four, avant Sin City. Jessica Alba était Dark Angel. C'est diffusé sur W9. Lundi soir à 20h50, 3 épisodes à la suite et le même soir, alors ça c'est assez rigolo, Dark Angel le film, ça vous intéresse?
Avec Dolph Lundgren.
Ouais, à 20h45, c'est sur Ciné Cinéma Frisson hein, de Craig Baxley de 90 avec Dolph Lundgren.
Thomas, tu peux venir chez moi hein, avec un pop-popcorn, il y aura un tas de gravats pour faire la deuxième place.
Voilà, Dolph Lundgren hein, qui joue le flic un peu marginal qui poursuit un extraterrestre qui est trafiquant de drogue.
Attends, on m'a offert le DVD, j'ai pas vu encore, ne me spoil pas le film.
Ça suffira, mon gars.
Ça suffira,
c'est pas mal, hein.
C'est hilarant.
Il est pas aussi bon que dans le Punisher, hein, où il est excellent, hein, de toute façon. Mais c'est pas mal quand même, quoi. Ça vaut le coup, quoi. Battlestar Galactica, putain, la
sensation, oh, yes.
Tu vois, ça y va, là, quand même. Hein. On en est à la saison 2 déjà sur Sci-Fi Channel, ça vous devez le savoir si vous suivez cette excellente série. Et demain, apparition de. Xena, le Warrior.
Oh non.
Lucy Lawless qui arrive dans la série Battlestar Galactica. Non, non, pas en tant que Xena. Non,
ah,
non.
Bon,
non, 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 rien à voir. Non, non. Attends. Attends, ils sont pas assez tarés que ça. Les Xena. T'en
je
fais pas.
Pas de Paris.
T'en fais pas. Donc, Sci-Fi Channel, c'est demain soir, donc Battlestar Galactica à 20h50. Et Sci-Fi Channel. France, qui s'appelle Sci-Fi d'ailleurs, hein, en France, qui propose, je rappelle, piqûre de rappel quand même, parce que ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment une excellente série, lundi à 20h50, donc après-demain, Brimstone, le dernier, donc avec 2 épisodes, hein, on peut voir plein de bons mags, de toute façon. De l'inédit sur Canal Jimmy, là c'est du polar, carrément, encore une série que tu l'as pas encore vue, que tu sais déjà qu'elle est terminée au bout d'une saison. C'est un vrai, c'est agréable, quoi. Enfin bon, des fois ça donne des bons trucs, justement, quoi. Line of Fire, ça s'appelle, et c'est du polar, genre, on va dire, mission d'infiltration, Wise Guy, tu vois, un flic dans la mafia, un truc comme ça, avec David Paymer dans le rôle du méchant, Leslie Hope et Leslie Bibb. Leslie Hope, c'est un mec, et, non, c'est une nana, et Leslie Bibb, c'est un mec, ouais, ouais. C'est diffusé par Canal Jimmy demain soir à 20h45, rediff le mercredi à 22h15. Hein, une seule saison donc de 13 épisodes de cette série qui s'appelle Line of Fire. On termine avec les films de la semaine.
Yes.
Et alors là, je vous ai choisi une chaîne. C'est pas transcendant, on va dire. C'est TPS Cine Extrême avec
le film du série X, Y et Z.
Non. Attends, tu vas déchanter là quand même. Enfin bon, c'est, on va dire que c'est pas du. Il y a pas tellement d'inédits, pas de trucs. Bonne nouvelle, c'est demain soir, hein, une soirée spéciale Pekinpa avec apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. De 74 avec Warren Oates, c'est à 21h, suivi d'un Peckinpah qu'on passe vachement moins souvent à la télé, et pourtant celui-là, je peux t'assurer qu'il dépote, il y a une scène de viol, d'attaque qui est horrible,
les chiens
vraiment,
de paille, hein.
Les chiens de paille, à l'époque, hein, c'est un film qui avait défrayé la chronique, hein, parce que c'était vraiment hyper violent, hein, de toute façon, on parlait d'interdire le film, enfin bon, les trucs absolument, ça ne deviendrait même pas l'idée maintenant, quoi. Mais enfin bon, quand il est sorti en 71, je peux dire que ça a dépoté, avec dans le rôle principal Dustin Hoffman, le film est tourné en Angleterre, avec il n'y a que Dustin Hoffman hein, et Peckinpah qui sont ricains, hein, je crois, tous les autres, c'est des acteurs et des actrices anglais. Lundi, donc toujours sur TPS Ici une extrême à 21h. De toute façon, c'est tous les jours à 21h. Le témoin du mal, hein, Grégory Oblique de 98, ah, oui, avec Denzel Washington, Elias Cotea, c'est John Goodman. Mardi, un film pas trop connu, hein, de Walter Salles de 98 qui s'appelle Le Premier Jour avec Fernanda Torres et Luis Carlos Vasconcelos. L'histoire d'un mec et d'une nana qui se rencontrent. Voilà, c'est bien, c'est super. Mercredi, eh ben, une petite relecture d'un classique de Brian De Palma, Carrie. Le téléfilm de David Carson, récent, hein, de 2002, et qui est estampillé moins 16 quand même, avec Angela Bettis, Patricia Clarkson et Rena Sofer. Pour ceux qui auraient loupé l'original, bah, il paraît que c'est pas mal aussi, hein, que ça dépote bien quand même.
Oui, oui.
Jeudi, on a Payment Cash, hein, John Frankenheimer tombé dans l'oubli de 86 avec Roy Scheider, Jaws, Anne Margaret, Vanity, Purple Rain, et John Glover en 86. John Glover, c'est le papa de Lex Luthor, c'est le papa de Lex Luthor dans Smallville, hein. C'est également le diable dans la série dont je viens de parler, hein, qui s'appelle Brimstone le damné. Et là, en 86, je peux dire, il doit être jeune, hein, quand même. On termine avec vendredi, toujours sur TPS In Extreme, un film anglais de 2003 de monsieur Meyres qui s'appelle Max.
Et meilleur ami de l'homme.
Non, c'est Pax, Max mon amour, hein, le film de Oshima.
Non, mais Max avec le chien là.
Non,
c'est pas
tout,
Max
pas
la
tout,
menace.
Pas hein. du tout, c'est l'histoire.
On va y aller loin.
L'histoire d'un type qui s'appelle Max, qui est interprété par John Cusack, et qui est un tailleur juif, et qui juste un petit peu avant la guerre, et bien commence à prendre goût aux différents thèmes et aux différentes propagandes sur l'antisémitisme qui sont diffusées juste un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça peut être assez rigolo avec John Cusack, Noah Taylor, Molly Parker et Lily Sobieski. Ça, c'est vendredi prochain sur TPS Cine Extrême. Voilà pour la télé.
Et ben voilà. Et ben zou. Et ben on est en train de tout replier, on est en train, juste avant de tasser professionnellement les feuilles, Thomas, je te prierai de faire le décompte, le petit résumé pour ceux qui ont manqué le début de l'émission.
Procès verbal de l'émission. Alors, on a eu Xavier qui s'est énervé plusieurs fois après Radio. On a eu une interruption de fond sonore. Oui, tu t'es trompé aussi.
Et quelle avance.
Ah, bah, tu t'es encore trompé, tiens, pour les dates dans les flyers aussi.
Ouais, les dates dans les flyers, oui, mais bon, c'était un peu du live à la volée. D'accord, ok, on rannonce aussi les soirées ce soir, donc oui, vas-y, continue peut-être. Alors,
je disais qu'on devait rappeler aussi qu'il y avait une place pour une pièce de théâtre à gagner qui s'appelle Je dis ça, je dis rien, qui a lieu à 21h ce soir, la place de la Halle, au Burgot.
Ouais, et d'ailleurs, je voudrais dire une chose aux organisateurs de spectacle, c'est pas possible de préparer comme ça, de faire gagner à la volée. Il vaut mieux que vous appelez les bureaux de Radio FMR en semaine, vous aurez une bien meilleure exposition. D'un autre côté, ben ce soir au Vent du Sud à 21h30, 5€, donc les voisins, Passe des Arts, Minimal Orchestra, c'est une soirée Batucada Blantina, préparée par Panoramix. Franchement, j'en veux quand même à certains maquettistes. Il y a aussi donc la soirée organisée par les illustres inconnus à la péniche Le Cri de la Mouette. Et la soirée occupée, donc une soirée techno, art techno, assis techno, 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 avec DJ SKS et c'est au Liquid Club, hein, 8€, voilà. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz.
On des feuilles.
Allez hop. Voilà, zou sur une caméra générale. Et là, on revient sur la caméra en off cette fois-ci, voilà.
Christophe, merci d'avoir été
merci
parmi nous.
Ouais.
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 Donc, je vois que tu as fait un dessin qui sera publié dans la page de l'émission.
Sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, où vous pouvez vous abonner au podcast. Le podcast, ça permet de réécouter tranquillement chez vous quand vous voulez, faire un pause, revenir en arrière ou tout simplement zapper. Voilà.
Si vous voulez vous abonner gratuitement, eh bien vous recevez toutes les semaines le nouveau fichier de l'émission.
Voilà, la nouvelle émission en enregistrée, à s'écouter dans son baladeur, à faire partager à ses amis. Profitez-en, c'est gratuit. Et puis voilà, et donc tout de suite, On passe en, en après le générique.
Au bonnet, aux gants, l'écharpe.
Ouais.
À la neige.
À la neige.
Avec une chute, oui, sur la glace.
Ah là là, magnifique. Mais juste le temps de rappeler le programme. Tout à l'heure à 15h, Zarma Farai, 17h, Vie d'ordure, 18h, tu peux l'ouvrir, 19h, Dada, 20h, la Stétéro Experience, 21h, 30 Quid Sky, et à 23h, Breakbeat Experience. Radio FM jusqu'à 5h du matin. Tout de suite, c'est du sport.
Ciao.
Ciao.